Tu as besoin d'un joli moment de détente ?
Livre, BD,
film, musique,
jeu, spectacle.
Tu cherches ? Tu hésites ? Tu manques d'idées ?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes.
Sur Radio Barthès 107FM. Bonjour et bienvenue au chaudron des découvertes. Aujourd'hui, le chaudron exhale de belles odeurs de terre, d'humus, de parfums des bois. Car aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai le plaisir d'accueillir Michael. Bonjour Michael.
Bonjour.
Et si je dis que ton job et ta passion, ce sont les arbres, c'est peut-être un peu restrictif, car au fond, c'est tout ce que la nature nous offre qui t'intéresse.
Oui, exact. Je suis avant tout un contemplatif.
Ah. Alors aujourd'hui, nous allons quand même nous cantonner surtout aux arbres. Michael m'a proposé deux ouvrages. La vie secrète des arbres de Peter Wohlleben. Je ne sais pas si je le prononce très très bien. Hein. Wohlleben, c'est de l'allemand. Moi, je n'ai jamais fait d'allemand. Hein. Qui est sorti en 2015 et traduit en 2017 aux éditions des Arènes. Et puis... sous forme de deux livres, en fait, soit le petit traité du jardin punk, soit le grand traité du jardin punk, d'Éric Lenoir, qui est édité par la SCOP Terre Vivante. Voilà. Ce sont des livres de facture complètement différentes, mais qui tous témoignent d'un grand respect pour les arbres et les plantes et bourrés de formidables connaissances. Alors, avant de parler de ces livres, je vais quand même livrer quelques infos que j'ai glanées. Les forêts donc couvriraient 30% de la planète et quand même, de janvier à août 2023, en Europe, 400 000 hectares ont brûlé, soit quand même 40% de plus que la moyenne annuelle. Et puis, comme il est probable que l'on parle de forêt primaire, c'est quoi une forêt primaire ? Eh ben, c'est une forêt naturelle composée d'espèces indigènes où aucune trace d'activité humaine passée ou présente n'est clairement visible. Et elles sont capables d'assumer leur pérennité selon un processus appelé sylvigénèse. Plus de la moitié des forêts primaires se concentrent en fait sur trois pays. Le Brésil, le Canada et la Russie. Alors pour le Canada, on peut se poser des questions vu les feux qu'ils ont subis. Michael, tu valides ces informations ?
Ah, effectivement, on a à connaître beaucoup d'accidents climatiques sur la planète qui malheureusement créent des dommages au niveau de la forêt. Et que la forêt soit au Brésil, au Canada, y a un impact pour nous. Et ça, c'est toujours un drame. Et puis, au-delà de ça, effectivement, sur les forêts primaires, au Canada, on peut se poser la question parce qu'ils ont une gestion effectivement en termes de sylviculture qui est plutôt assez hard et qui aurait tendance à prendre les espaces. Et au même titre que la Russie, ils ont une vision un petit peu infinie de la nature, ce qui fait que dans le sens commun, la gestion, le respect de la forêt, c'est quelque chose qui pose encore problème aujourd'hui. Les jeunes générations s'en emparent, mais ça va être long, je pense, pour pouvoir modifier ce prisme.
D'accord. Alors, je vais commencer avec le premier livre qu'avait proposé Michael, qui s'appelle « La vie secrète des arbres ». Donc, Peter Wohlleben, il est né en 64 à Bonn, en Allemagne de l'Ouest à l'époque, et il est ingénieur forestier, il est aussi auteur. Et donc il a fait l'université des sciences forestières, et en 91, il devient forestier de terrain, et ce qu'il voit, donc déjà à l'époque, ce qu'il voit ne le réjouit guère. Il observe les dégâts causés par les techniques et les technologies qu'il est censé employer, notamment des coupes rases d'arbres et l'utilisation de produits chimiques. Alors, en 2002, il réserve une section pour y installer un cimetière forestier, la forêt en paix, où les gens peuvent déposer des urnes funéraires de leurs défunts sous des vieux arbres portant une plaque au nom de la personne. Et la question qui me vient là, Michael, c'est ça existe ça en France ?
Non.
Ça n'existe pas ?
Non.
C'est bien dommage. Enfin, en tout cas, tout ça ne plaît pas beaucoup à sa hiérarchie qui lui refuse le remplacement des lourdes machines qui endommagent les sols par des chevaux. Il finit donc par démissionner, mais, par chance, la commune de Hummel où il travaille met fin au contrat de gestion avec l'office régional forestier et l'embauche en direct. et de ce fait, plus de produits chimiques, des chevaux, et en 2 ans, la forêt qui enregistrait des pertes devient bénéficiaire. Et il commence à écrire et sort donc en 2015 La vie secrète des arbres. Alors je ne l'ai pas vu, mais il semblerait qu'aujourd'hui ce soit sorti aussi en BD. Et en 2017, il fonde une académie de la forêt, il multiplie les activités, cabanes, stages pour les enfants, etc. Alors, le livre. Moi, je suis complètement néophyte en la matière. Eh bien, je suis rentrée vraiment très facilement dans ce livre. Il y a 36 petits chapitres, faciles à lire, dans un style, alors, pour le moins imagé et convaincant. C'est bourré de métaphores qui nous aident vraiment à comprendre les phénomènes. Il y a à la fois des statistiques qui inscrivent le récit dans une réalité, mais de toute façon, que ce soit par la métaphore ou par des statistiques, les deux approches sont totalement scientifiques. Et on découvre que les forêts ressemblent à des communautés humaines. On y observe des couples amoureux, des enfants que des parents aident à grandir, des voisins qui se soutiennent. Ainsi, par exemple, ça parle des amitiés entre les arbres et l'importance du vieux bois qu'on croit mort. L'auteur dit, mais pourquoi les arbres ont-ils un comportement social? Pourquoi partagent-ils leur nourriture avec des congénères et entretiennent-ils ainsi leurs concurrents? Pour les mêmes raisons que les sociétés humaines, à plusieurs, la vie est plus facile. Bon, enfin, peut-être que les arbres sont plus malins que les hommes, hein, parce qu'en ce moment, je n'en dirai pas plus.
Effectivement, quand on imagine que les arbres cumulent plus de 350 millions d'années d'évolution, nous on n'en est qu'à 300 000 ans, 300 petits 1000 ans. Ils sont capables de vivre 5000 ans, ils sont, voire davantage. Hein. Aujourd'hui, il y a des études qui sont en train d'aller dans ce sens. Ils sont capables de se cloner, ils sont capables de se reproduire sans dépenser la moindre énergie. Ils sont capables de coloniser un territoire en ne dépensant que très très peu d'énergie. Donc il y a réellement une supériorité sur beaucoup de domaines. Là, j'ai résumé, mais il y en a encore davantage.
D'accord. Et on découvre aussi, alors moi je découvre complètement, que les champignons apportent une aide incroyable en permettant d'envoyer des signaux d'un arbre à un autre pour informer d'un danger, par exemple. Et à propos des champignons, je cite toujours l'auteur, « La densité du système de filaments qu'ils développent dans le sol est à peine imaginable. Pour vous donner une idée, une curée à café de terre forestière contient plusieurs kilomètres carrés de ces filaments appelés hyphes. » Incroyable.
On parle carrément de réseau mycorhizien. Ça permet en fait aux racines d'avoir une prolongation physique et matérialisée et qui leur permet en fait une plus large absorption de l'eau et des nutriments. Et aujourd'hui, on commence à avoir les moyens d'étudier ce qui se passe dans le sol, ce qui est relativement très très compliqué, on s'en doute. Et aujourd'hui, on peut aussi le comparer à un réseau Internet, réellement, avec des échanges d'informations chimiques, électromagnétiques. Et on s'aperçoit qu'en fait, certains arbres ont des connexions visiblement à plusieurs kilomètres de là où ils sont implantés.
Eh oui, ils sont forts ces arbres, hein. Il n'y a pas que ce discours métaphorique, il y a aussi des moments, des statistiques. Je vais vous lire un petit extrait pour vous donner une idée de ce que dit l'auteur. Un être produit au moins 30 000 faines tous les 5 ans, voire tous les 2 à 3 ans avec le réchauffement climatique, mais laissons cet aspect de côté pour l'instant. Selon la quantité de lumière qu'il reçoit, il atteint la maturité sexuelle entre 80 et 150 ans. Si l'on considère qu'il vit 400 ans au maximum, il va donc fructifier au moins 60 fois et produire au total environ 1,8 million de faines. Sur ce 1,8 million de faines, une seule deviendra un arbre. Pour une forêt, c'est un super score. Quelque chose comme les 6 bons numéros du loto. Bon, vous voyez, c'est quand même buvable. Hein, le texte passe quand même. Alors, ce qu'il dit, c'est ce que disait Michael tout à l'heure, hein, la forêt est une immense toile de communication et certains arbres sont capables de s'adapter en quelques semaines.
Effectivement, on peut citer différents cas qui sont aujourd'hui prouvés scientifiquement. Et il y a cette petite anecdote en Afrique du Sud, c'était dans le Transvaal. En fait, il y avait une surpopulation en fait d'antilopes et qui ont commencé à brouter en fait les acacias. Et les acacias ont communiqué entre eux pour se défendre. Et en fait, ils ont observé qu'ils ont dégagé des substances chimiques pour que les congénères qui étaient un petit peu plus loin, portés par le vent, aient cette information. Ils ont modifié leur structure chimique au niveau des feuilles en y amenant beaucoup de tanins qui ont empoisonné. Et il y a plus de 2000 antilopes qui sont mortes. Et l'équilibre est revenu.
Et voilà. Alors, ces arbres... Bien évidemment, c'est ce que dit d'ailleurs l'auteur, sont garants de la biodiversité. Et je cite, « Un arbre qui meurt ne disparaît jamais tout à fait. Les substances nutritives que l'arbre a puisées dans le sol et stockées dans son bois et son écorce pendant des siècles constituent un trésor d'une grande richesse pour ses enfants. » Il parle des enfants arbres, bien sûr. Et puis plus loin, il dit « Au total, un cinquième des espèces animales et végétales sont inféodées à la présence de bois mort, ce qui correspond à 6000 espèces actuellement connues. » Alors, autre particularité, il semblerait que les arbres sachent compter. Bon, évidemment, là aussi, c'est une métaphore. Mais comment les arbres savent que c'est le printemps ?
Donc, effectivement, comment un arbre arrive à comprendre que ben, c'est OK pour lui et que la période est propice pour pouvoir, pour employer le terme consacré, débourrer ? Eh bien, tout simplement, ils sont capables en fait, de détecter une augmentation de l'indice de luminosité, la température du sol qui augmente jusqu'à un degré bien précis, suivant les arbres, il est différent, et en fait une constance aussi au niveau du température de l'air. Ce qui, en gros, c'est trois facteurs. En communion, lui disent « Moi, j'ai plus trop de risques par rapport à un hiver, donc je peux mettre de l'énergie, parce que ça lui coûte de l'énergie de débourrer, et de fabriquer des feuilles pour commencer sa vie de saison. »
Et alors, l'auteur pose la question, je crois, il se pourrait que les bourgeons soient capables de détecter la lumière ?
Alors, la lumière, effectivement, est quelque chose de primordial, on le sait tous par rapport à la photosynthèse. Et les bourgeons, mais surtout le développement de ce petit bourgeon qui va s'ouvrir, en fait, lui va pouvoir détecter. Le bourgeon en tant que tel, fermé, lui ne détectera pas, il a vraiment des écailles qui le protègent de tout. Mmh. Et effectivement, une fois qu'il commence son développement, il va aller... suivre la course de la lumière. Et on peut voir comme ça même des arbres complètement asymétriques, tout simplement parce qu'ils ont un côté complètement à l'ombre et un côté où il y a une fenêtre de lumière et ils se développent vers la lumière. Toujours en basse énergie.
Et tu voulais nous parler aussi de cette recherche d'équilibre permanent.
Effectivement, tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué avec le coup des acacias et des ravageurs qu'il y avait autour. Mais effectivement, on s'aperçoit qu'un arbre, si on le prend en tant qu'individu, va rechercher perpétuellement l'équilibre. Pour ça, il utilise deux hormones. Une hormone qui va concerner les parties aériennes et une autre hormone qui va concerner les racines. Dans son développement, qu'il soit racinaire ou bien aérien, donc tout simplement pour une question de saison, en hiver plus en souterrain, au printemps et l'été, on l'a bien compris, plus en aérien, eh bien l'arbre va toujours chercher l'équilibre entre la quantité de ces deux hormones, ce qui fait que, grosso modo, il y aura toujours une quantité égale, ou en tout cas proportionnée, entre sa surface qui est au sol et sa surface qui est aérienne. Pour une petite anecdote, ils ont trouvé en Australie un arbre qui a été fossilisé, et ils sont incapables de dire où sont les branches, où sont les racines.
Ouais. Alors, sur un sujet plus pragmatique, moi j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas s'abriter sous un arbre lors d'un orage, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. Et l'auteur, à un moment donné, il fait référence en disant « Connaissez-vous ce vieil adage qui conseille, lors de la survenue d'un orage en forêt, d'éviter les chênes et de rechercher les êtres ?» Et être, pardon. Donc,
En fait, c'est vrai que sur l'électricité, bon, il y a... comme dans beaucoup de domaines, des légendes urbaines qui ont la peau dure. Donc effectivement, bon, il peut y avoir des arbres qui conduisent un petit peu plus d'électricité, simplement parce qu'ils auraient à ce moment-là un peu plus d'eau. Mais deux chênes peuvent être complètement différents. Pourtant, ce sont deux chênes blancs, mais suivant leur quantité d'eau à l'intérieur des tissus, il y en a un qui va être meilleur conducteur que l'autre. Et la foudre, en fait, cherche le chemin le plus court entre l'air et la terre. Ceci étant dit, lorsqu'on a un orage et qu'on a une forêt proche de nous, on va être clairement en sécurité à l'intérieur de cette forêt. Cette forêt, par son feuillage, l'eau qui va courir dessus, va faire une cage de Faraday. Donc là, vous allez être protégé. En revanche, si vous êtes en train de vous promener et qu'il y a un arbre isolé, n'allez pas vous abriter en dessous de cet arbre isolé. Car là, effectivement, vous allez vous exposer. Et au même titre que d'aller se protéger dans la forêt, et ben, comme une cage de Faraday, les éclairs sont sur les côtés et tout, ne restez pas à l'orée ou à la lisière de la forêt. Là, vous êtes à l'endroit où ça risque de péter un peu plus.
D'accord, c'est compris. Alors après, l'auteur évoque aussi les insectes, entre autres par le flux des marchandises, qui offrent aux champignons et aux insectes l'opportunité de traverser l'Atlantique ou le Pacifique, et qui peuvent représenter un danger grave, voire mortel pour les arbres.
Effectivement, là tout récemment, quand je dis tout récemment, à l'échelle de la nature, mais c'est assez rapide. Il y a quelques dizaines d'années, il y a des palmiers qui ont été importés en France sans avoir de passeport phytosanitaire au nom du business. Et donc quelqu'un a importé ces fameux palmiers, mais qui étaient vérolés. Ils contenaient le papillon en fait, du palmier, qui n'est pas endémique en France. Il s'est développé, il trouve ici, après avoir passé les Alpes, eh bien, ça venait d'Italie, on lui a fait passer les Alpes, donc c'est tranquille pour lui, et en France, il trouve des conditions tout à fait intéressantes pour se développer. Mmh. Et dans le sud de la France et tout, on a procédé à pas mal d'abattages de palmiers qui étaient morts, bouffés par la chenille et par le charançon également. Donc voilà, au nom du sacro-saint business, on prend des largesses et ben, il faut faire attention, ce sont des êtres vivants et on peut les exposer à des virus, des maladies ou des ravageurs type insectes.
Alors, pour continuer sur ce qu'on pareil, c'est un peu l'idée de l'oxygène, la forêt, se régénérer, tout ça, tu as une histoire sur les pins maritimes.
Oui, en fait, il y a... On connaît tous la forêt des Landes, qui est une monoculture. On connaît ses limites, ses problèmes, hein, quand il y a une tempête ou quand il y a un ravageur qui vient s'y installer et qui, du coup, fait des dégâts considérables. Mais il y a un petit côté qui est assez sympa à cette forêt. Les jours de vent, en fait, les aiguilles, eh bien, comme ça, dansent au vent. Et il a été mesuré qu'en fait, elles dégageaient énormément de ions négatifs. Donc ces ions négatifs qu'on peut retrouver soit près d'un torrent ou un rivage un peu sympa comme en Bretagne par exemple. Et les personnes qui sont assez réceptives et sensibles, et notamment les enfants, sortent une promenade un jour de vent de la forêt des Landes dans un état peut-être pas d'ébriété, mais en tout cas de bien-être. On peut parler d'un petit enivrement aux ions négatifs.
Bon, à tester. Alors, moi, c'est pareil, il y avait un autre lieu commun, où, en tout cas, c'est une amie qui m'avait dit un jour, « Ah, tu as campé sous des noyers, mais c'est dangereux. » Mais en fait...
Alors, voilà, le pauvre noyer est victime aussi de cette légende urbaine qui reste bien accrochée. En fait, déjà, bon, depuis le Moyen-Âge, le noyer fait l'objet de superstitions. Il est dit que son ombre servirait de salon aux dames, des dames aux sorcières, pardon. Et que, en fait, une sieste sous son feuillage rendrait malade. Elle causerait des nausées, des maux de tête. Ça peut arriver, parce que, dans le sens où il a un ombrage tellement... un feuillage tellement dense qu'il a une ombre vraiment, vraiment efficace. Effectivement, les gens qui pourraient subir un petit refroidissement et être sensibles pourraient peut-être avoir un petit nez qui coule. Et encore, ça reste à prouver. Donc, vous voulez faire un tiers sur un noyer, prenez un petit plaid et il n'y a aucun souci. Au-delà de ça, et il y a aussi une donnée un petit peu scientifique et qui a été comme ça détournée pour pouvoir accentuer cette légende urbaine en tout cas, c'est qu'en fait, les noyers en fait, produisent des petites quantités qui s'appellent la juglone. Propre à sa famille, les juglandacées. Et on observe en fait que cette substance est faite pour limiter la concurrence. Parce qu'en fait, dans la nature, il y a une concurrence permanente à la lumière. Il existe beaucoup de végétaux qui ont des technicités à disposition pour pouvoir être les gagnants de cette concurrence. Eh bien, la juglone en fait partie et ça limite la croissance. Et ça limite la croissance comment ? Tout simplement en limitant la respiration des végétaux. Et en fait, on s'aperçoit aujourd'hui que ces réactions sont rarement toxiques, en fait. Et ceci fait que le noyer est devenu une bête noire, et pour les asthmatiques, etc. Aujourd'hui, il n'a pas été mesuré clairement que voilà, des gens souffrent d'une sieste sous un noyer un jour d'été.
Bon, donc, je retournerai camper sous les noyers. Alors... Ça, je ne l'ai pas lu dans le livre de Peter Ullmann, mais j'ai vu ça sur une interview qu'il avait... Alors, malheureusement, je ne me rappelle plus dans quel contexte, où il dit « Construire en bois, fabriquer des livres ou des meubles est une idée, mais brûler du bois est délirant, c'est pire que le charbon pour l'environnement. » Et là, j'avoue, ça m'a questionné.
Ouais, c'est un sujet qui est relativement complexe, en fait, parce qu'il y a tellement de données à prendre en compte. Si on prend le charbon, il va lui émettre beaucoup de particules volatiles dangereuses, du benzène, des dérivés aromatiques, le benzol, la propylène, les goudrons, des dérivés du phénol qui sont comme les dioxines, donc on le sait tous, très, très mauvaises pour la santé. C'est une énergie fossile. Les stocks sont donc limités. Mais n'oublions pas une chose, c'est quelque chose qui a été mesuré en Angleterre, c'est que pour fabriquer les éthers, on utilise du bois pour extraire le charbon. Et qu'à un moment, il y a eu un déséquilibre entre l'exploitation du bois et la fabrication d'éthers en Angleterre pour extraire le charbon. Donc, à contrario, tu as le bois en face où... c'est une source qui, elle, va être renouvelable avec une gestion correcte. Ça peut être produit en local, ça peut être transformé en local, ça peut être donc transporté de manière plus raisonnée. L'inconvénient, c'est que lui aussi va libérer des polluants. Pourquoi ? Simplement, l'arbre est le premier des polluants de la planète, dans nos villes, dans nos campagnes. Il est en mesure de stocker, par exemple, les gaz d'échappement, etc. Il les stocke dans ses tissus, il n'en fait rien. Il ne l'utilise pas, mais il le stocke. Dès lors qu'on le brûle, une partie de ses composants sont relâchés tels que, et d'autres, sous l'action de la chaleur, subissent des transformations chimiques qui sont loin d'être cool pour nous, en fait.
Mmh. Alors, malgré tout, l'auteur dit que les forêts sont quand même des alliés naturels contre le réchauffement climatique. Elles génèrent des nuages, des dépressions, de l'humidité et même du vent. Bon, ce que tu disais, hein, absorbe du CO2. Et les forêts sont 10 à 15 degrés plus fraîches. Il y pleut davantage. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que la sylviculture telle qu'elle est pratiquée va finir par affaiblir les forêts. Il faut qu'elles puissent se réguler elles-mêmes. Les arbres, les bactéries, les champignons, les insectes constituent une communauté très puissante. Alors, ce qu'il dit, qui est en mesure d'amortir toutes les bêtises que nous faisons.
Alors, je peux le rejoindre sur son côté très enthousiaste par rapport à la puissance d'une forêt, une puissance complexe. En revanche, on pourra dire plutôt une partie des bêtises. J'en ai parlé tout à l'heure, les polluants sont stockés.
Ouais.
Une partie du carbone aussi, mais pas tout. En revanche, les pollutions de masse, l'installation des plantations dites durables, comme dans le Morvan, par exemple, où on crée comme ça des sapinières pour les sapins de Noël, eh bien, vont en fait s'installer sur une coupe rase d'une forêt complexe, équilibrée. Et cette forêt, même si elle est gérée en mode durable, ne remplacera jamais, jamais une forêt complexe.
En tout cas, ce livre est vraiment très intéressant. Moi qui ne connaissais pas grand-chose aux arbres, je vous jure, je ne regarderai plus les arbres de la même façon.
Vous écoutez
Le Chaudron des Découvertes
sur Radio Bartas, 107 FM.
Alors maintenant, on va aborder l'autre ouvrage qui est le traité. Alors je dis traité du jardin punk puisqu'en fait il y a deux livres. Il y a le petit traité du jardin punk qui est celui que moi j'ai lu. Et puis peut-être tu en parleras un petit peu tout à l'heure. L'autre c'est le grand traité, c'est ça, je me souviens.
Ouais, c'est ça.
Grand, oui, du jardin punk, mais c'est le même auteur, c'est Éric Lenoir. Alors Éric Lenoir, C'est un jardinier, paysagiste et pépiniériste. Il a grandi, je cite, hein, dans des cités HLM moches avec des jardins super moches. Et il a étudié à l'école du Breuil à Paris, qui est, paraît-il, une très bonne école. Tu confirmes,
Michael ? Je confirme, oui.
Ouais. Son enfance se passe dans une cité du 93, mais il savoure chaque année des vacances dans le Morvan. Et puis, devenu adulte, il a acquis un terrain dans le Lyon, qu'il appelle le Flérial, qui s'étend sur 12 000 mètres carrés, qu'il a pris le temps d'observer pendant un an, et qui est devenu aujourd'hui un jardin expérimental. Alors, dans ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse autant aux particuliers qu'aux collectivités. Alors, le livre, eh ben, un style enlevé, hein, un peu rock'n'roll, enfin, en fait, punk, quoi. C'est drôle, c'est sans concession. On est parfois interpellé, un vrai plaisir à lire. Voilà, voilà ce que dit Éric Lenoir. Plutôt que d'être en lutte contre la nature, l'idée était plutôt de dealer avec elle. Une invitation à pratiquer le jardin autrement. Ou bien encore, être un jardinier punk, c'est être un jardinier qui réfléchit à ce qu'il fait, qui refuse les règles quand elles sont absurdes et qui essaye de coller un peu à son époque, à ses besoins et aux fonctions qu'il veut donner au jardin. Et d'ailleurs, dans son intro, je vais vous lire un petit bout de l'introduction qu'il fait. Alors, je ne sais pas quel âge il a, ce monsieur. Il est sûrement plus jeune que moi, ça c'est sûr. Nous sommes nombreux de ma génération à avoir effectué un parcours relativement analogue, témoin d'une pollution désastreuse, d'une artificialisation ahurissante des sols et d'aménagements paysagers aussi maladroits que grotesques de prétention, entre autres atteintes environnementales. Nous avons développé des stratégies ou des modèles beaucoup plus écologiques que ceux qu'on nous a enseignés, à porter un regard nouveau sur cet espace de vie qu'est le jardin. Prosélytes, écologiques, idéalistes, bobos, fadas, rêveurs, les sobriquets que nous réserve une partie de la vieille garde du métier témoignent des freins que nous rencontrons à faire évoluer notre domaine. Il évolue, cependant, aujourd'hui bien plus que depuis des siècles, principalement sous la contrainte. Ça t'inspire quelque chose, Michael, ce que dit ce monsieur ?
Oui, et c'est effectivement ça. Il faut arrêter, je crois, de vouloir dominer une nature qui nous surpasse et qu'effectivement, comme il le dit, dealer avec elle. Voilà, c'est faire preuve d'humilité, de contemplation aussi, et de pouvoir grandir ensemble, parce que il y a toujours à apprendre d'elle.
Alors, son jardin, là, le Férial, c'est devenu un jardin pédagogique. En fait, Éric Lenoir cherche à montrer qu'on peut arriver à une sorte de symbiose entre respect de la nature, de la biodiversité, la conscience écologique et souhait du jardinier. C'est un paradis pour des milliers de petites bestioles. Et il y a un autre petit texte que, dans ce livre aussi que je vais vous lire, parce qu'il dit « Parfois la transgression peut aussi prendre la forme de la protection ». Un magnifique massif de fleurs sauvages pousse dans le fossé devant chez vous et risque de passer sous l'épareuse d'ici peu. C'est quoi une épareuse, Michael ?
C'est une machine qui est utilisée par les services de voirie ou de la DDE pour pouvoir nettoyer proprement un fossé ou un talus.
Donc je continue son texte. Rendez-le inaccessible en le protégeant par des roches, des piquets ou plus malicieusement, nettoyer ses alentours pour dissuader l'employé de la voirie d'y voir une nuisance. Vous aurez été ainsi punk dans l'âme en imposant votre souhait contre la volonté immanente de l'autorité. Mais il ne faut pas être bête non plus. Le simple dialogue avec les autorités ou les représentants peut aussi, dans bien des cas, permettre d'obtenir les mêmes résultats. Voilà, donc... C'est vraiment ce livre, je l'ai trouvé vraiment fascinant. En plus, j'aime beaucoup la façon dont il écrit et dont il envoie son propos. Et puis, je trouve quand même, et tu me diras si tu es d'accord, hein, derrière un discours provocateur qui pourrait vraiment s'apparenter à du laisser-aller, en fait, Éric Lenoir explique et propose beaucoup de choses avec une connaissance fine des plantes. D'ailleurs, il a aussi une approche qui défend le recyclage. Dernier petit texte, avant de laisser la parole à Michael, qui aura sûrement beaucoup plus de choses à dire que moi. Alors, la permaculture est devenue un mot valise dans lequel on a casé un peu tout et n'importe quoi. Retenons une idée forte, tout ce qui pousse, produit et vit ici doit pouvoir profiter à ce qui pousse, produit et vit ici. N'exportez rien, compostez tout dans la mesure du possible et sinon, employez les résidus végétaux en paillage ou sous forme de BRF. Alors, BRF, c'est...
Broyat raméal fragmenté.
D'accord. Wow.
Je vous expliquerai après.
Ça marche. Utilisez les branchages pour en faire des clôtures, des cabanes, des silos ou du combustible pour le barbecue. Voilà, en fait, ce livre est très facile à lire et, à mon avis, utilisable concrètement. Voilà, je vais te laisser parler parce que du coup, moi je connais que le petit traité du jardin punk et toi tu as aussi le grand traité du jardin punk. Peut-être que tu peux en dire quelques mots, Michael.
Bon, il reprend quand même pas mal les idées qui sont importantes et qui sont présentes dans le petit traité. Il va y avoir des illustrations, des photos aussi qui sont assez sympas pour bien comprendre le propos. Peut-être pour celui qui manquerait d'imagination, quoique. Mais pour rebondir sur ce que tu disais, donc on parlait tout à l'heure des petits talus pour les sauver des épareuses, etc. Pour tous ceux, par exemple, qui pendant la période de confinement habitaient en ville, c'était mon cas à l'époque, et j'avais ma chienne avec moi, donc j'étais autorisé à la sortir avec mon petit papier. Et là, on pouvait voir justement des ronds-points, des talus, des trottoirs qui n'avaient subi aucune action humaine. Et c'était magnifique. C'était des fleurs de partout, des couleurs, des mouvements, des hauteurs, des odeurs. C'était extraordinaire. Le Covid passé, on est revenu à quelque chose qui fait place nette au goudron, aux bordures, au ciment. Donc c'est vrai que c'est pour illustrer un petit peu son propos et dans nos jardins, eh bien dès lors qu'on peut laisser une petite partie sauvage et tout, eh bien de le faire, pour plusieurs raisons. Les plantes, elles vont permettre à des auxiliaires de trouver refuge et de vous aider si toutefois vous aimez les fleurs et vous les cultivez, ou si vous aimez faire votre potager et que vous fabriquiez vos légumes. Ça va permettre à ces plantes eh bien, d'utiliser un phénomène qui est l'épigénétique, c'est-à-dire tout simplement de modifier ses gènes en fonction de son environnement. Et en fait, la plante transmet dans ses graines des informations précieuses, accident climatique à la rencontrer dans sa phase, et tant d'autres choses. Donc c'est quelque chose qui est toujours intéressant, parce que là vous allez arriver à une sélection naturelle, la nature le fait très bien, avec des plantes qui demanderont peu de soins et qui ne feront qu'embellir vos journées, ça c'est garanti. On parlait tout à l'heure de BRF, je t'ai dit tout à l'heure broyat raméal fragmenté, en fait c'est du bois raméal fragmenté. Donc en gros, ce sont les tiges qui ne sont pas lignifiées, donc qui n'ont pas connu un an, qui sont passées au broyeur, et qui ont cette particularité effectivement d'être recyclées dans son propre jardin, et de fournir énormément de choses au sol, des minéraux, de la nourriture, de la protection aussi pour nos auxiliaires, j'en parlais tout à l'heure. Les auxiliaires, ça peut être des insectes, mais ça peut être aussi des bactéries, des virus, ou bien tout simplement des champignons. Donc bactéries, virus, il y a des choses qui sont très très bonnes pour nous. Ne l'oublions pas. Donc, par rapport à cela, effectivement, tout à l'heure, je me suis défini comme un contemplatif. Loin de moi l'idée de trop parler de ce que je réalise aujourd'hui en qualité de professionnel. Mais effectivement, parmi mes différentes tâches, je soigne les arbres, mais aussi je crée des jardins où je les entretiens. Bah, l'idée, c'est tout simplement aussi de tout ce qui vient du jardin puisse être recyclé à l'intérieur de son jardin et ne pas envoyer ça en déchetterie. Quand on le peut. On a une haie, on descend le petit rideau du feuillage un petit peu plus bas pour pouvoir y dissimuler justement des déchets de taille qui pourraient être broyés. Ça peut être aussi du compost, et fait du compost local dans votre potager, sous le paillage. Vous terminez de cueillir sur un pied de tomate, ce pied de tomate, vous le coupez, vous le mettez au contact du sol. Tous les petits auxiliaires, bactéries, virus que j'évoquais tout à l'heure vont s'en charger rapidement. Et la matière repart au sol. On entretient un sol vivant. Un sol vivant, il n'a pas besoin d'intrants chimiques pour vivre. Et c'est vrai que ce recyclage, il est là très, très intéressant. Et en fait, Éric Lenoir, par son approche, par des discours un peu, comme tu le disais tout à l'heure, un petit peu provocateur, veut faire bouger les lignes et il a bien raison. Il a bien raison.
Ok. Alors, pour finir, je pense que les gens ont compris, hein, les arbres, c'est important, mais tu peux encore nous redire quelque chose sur les arbres ?
Eh bien, tout simplement que sont, bon, moi, ce sont mes amis, depuis que je suis enfant. J'ai appris à les connaître tardivement. Et j'en ai fait une spécialité et je crois que j'ai matière à apprendre jusqu'à la fin de mes jours. Et ça, c'est super. Et effectivement, à partir du moment où on apprend à les connaître, c'est un petit peu comme dans la vie. On comprend des choses. Et effectivement, au niveau des arbres et tout, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les premiers polluants, les dépolluants, pardon. En revanche, un arbre qui commence à être mature dans son jardin, dans une forêt, à lui seul, c'est une véritable cité. On pourrait le comparer à une ville. Je renvoie d'ailleurs les auditeurs à un film qui a été produit par exemple ici à Florac qui s'appelle Le Chêne. Certains ont dû le voir. J'invite les gens à aller le voir pour comprendre un peu ce que je dis. Et puis, il y a des arbres qui sont plantés dans nos jardins. Ils peuvent être solitaires. Si vous avez la place pour planter, ben, n'hésitez pas. Vous pouvez planter aussi à l'extérieur. Il y a des gens qui le font. Vous pouvez planter des fruitiers, vous pouvez planter des arbres d'ornement. La seule condition, je dirais, ce serait un peu oublier que ces arbres vont nous survivre. Ils ont une taille adulte, elle est connue. Donc, tout simplement, de réfléchir à l'endroit où je le plante pour ne pas avoir à le couper à un moment où il ne le faudrait pas. N'oublions pas que ce sont des êtres vivants et très complexes.
Merci Michael pour toutes ces belles informations. Je vous rappelle les deux livres que Michael nous a conseillés. La vie secrète des arbres de Peter Wallenben aux éditions des Arènes. Et puis donc soit le petit traité du jardin punk ou alors le grand traité du jardin punk d'Éric Lenoir, édité par la SCOP Terre Vivante. Eh bien, au revoir et à bientôt.
Au revoir.
Tu as besoin d'un joli moment de détente ?
Livres, BD,
films, musique,
jeux, spectacles.
Tu cherches, tu hésites, tu manques d'idées ?
Viens plonger tes yeux, tes oreilles
dans le chaudron des découvertes
sur Radio Barthes 107 FM.